La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la famille Rimbaud, il y avait quatre enfants, deux garçons puis deux filles. Arthur était le deuxième. Leur mère était une femme à poigne et une femme de devoir, aimante, probablement un peu trop protectrice, mais ne dédaignant pas les lettres. Ce qu'il n'y avait pas en revanche, c'était un père, car le militaire absent, qui est resté dans l'histoire pour avoir conçu l'un des poètes les plus célèbres de la littérature, a disparu très tôt, peut-être dans une autre famille qu'il avait fondée ailleurs. L'effet que cet abandon a eu sur le jeune Arthur, nous ne pouvons que le supposer, mais en tout cas devenu adulte, il prendra la tangente comme son paternel, ainsi que nous l'a raconté hier Jean-Baptiste Barognan au cours d'une émission à retrouver en podcast. Et demain, nous nous intéresserons au recueil de poèmes en prose de Rimbaud, Une saison en enfer. Ce sera avec Yann Frémy, qui a notamment consacré un essai à ce texte. Enfin jeudi, nous terminerons notre série avec la vision d'un Rimbaud politique, qui est celle de Frédéric Thomas, l'auteur du livre Rimbaud Révolution aux éditions L'Échappée. Et aujourd'hui ?
Il y a eu sans doute, dans l'histoire des lettres, de meilleurs poètes que Rimbaud. Victor Hugo est plus généreux et plus vaste. Goethe est plus réfléchi. Baudelaire ou Coleridge nous atteignent plus profondément. Pourtant, il n'est pas un poète qui ait autant que Rimbaud préoccupé les hommes. Il est unique. On ne s'est jamais débarrassé de lui.
L'écrivain, critique et éditeur Jean Pollan dans une archive de 1958. Aujourd'hui donc pour présenter l'œuvre d'Arthur Rimbaud, nous sommes en votre compagnie. André Guyot, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie royale de langue et littérature de Belgique. Vous travaillez sur les poètes du 19e. En 2017, vous avez publié aux éditions Alexandrine le livre intitulé Le Paris de Baudelaire. Et puis c'est vous qui avez donné en 2009 une nouvelle édition des œuvres complètes de Rimbaud en Pléiade. Alors comment est-ce que vous expliquez tout d'abord cette place tellement à part du poète Rimbaud dans l'univers des lettres? Est-ce que vous aussi vous diriez, comme Jean Pollan, qu'on entendait à l'instant en archive, qu'il est le poète qui a le plus préoccupé les hommes?
Mais oui, pour une raison que sous-entend le propos que tenait Jean Pollan. C'est-à-dire on ne peut pas se débarrasser de lui, mais lui s'est débarrassé de nous. Je crois que c'est la clé, en tout cas d'un certain succès, et puis d'une attente, d'une frustration éternelle que nous ressentons après qu'il ait divorcé du monde occidental.
C'est ça qui nous préoccupe foncièrement, parce qu'on le ressent comme un gâchis ?
Oh oui, mais enfin, je pense que ce n'est pas son point de vue. Historiquement, il a considéré qu'il devait passer à autre chose. Peut-être qu'il s'est trompé, mais ça c'est une autre histoire, c'est l'histoire de l'homme.
En tout cas, il a préféré son destin à son œuvre.
Et en êtes-vous sûr? Je ne sais pas. Il y a des périodes. Et au moment où il écrivait l'œuvre en question, il ne préférait pas autre chose qu'elle. Je pense qu'il a beaucoup investi dans cette œuvre, qu'il y croyait véritablement. Et puis, bon, il est passé à l'âge adulte. Sa création littéraire, poétique, pour être plus exact, est une... Je la vois, moi, comme un prolongement de l'adolescence. Et puis, à la fin de l'adolescence, au moment d'aborder l'âge adulte, eh bien, il n'écrit plus de vers, pour dire les choses simplement. Il n'écrit plus de vers.
Vous trouvez qu'on se préoccupe trop de cette question et de cette espèce de mystère?
Un peu, oui. J'ai l'impression, oui. elle est lancinante, cette question. C'est-à-dire, on commence toujours l'émission par la poser. Je m'étais juré de ne pas le faire. Donc,
non, voilà. Mais c'est de ma faute, hein, c'est moi qui vous la pose. On va parler de toute autre chose, André Guyot, alors, et parlons d'un sujet qui est le titre de notre émission, et c'est la question du printemps chez Rimbaud, parce que il y a dans la poésie de Rimbaud quelque chose qui relève de l'adolescence, quelque chose qui relève aussi de la nature et aussi de l'évasion. Est-ce qu'on peut pas dire, prenons ce terme pour commencer, que toute la poésie de Rimbaud, c'est une poésie de l'évasion?
Oui, on peut dire ça, j'ai l'impression. Les tout premiers poèmes, les premiers et les derniers, sont reliés, je crois, à cette thématique que vous évoquez. Et l'évasion à partir du printemps, dans le printemps et à partir du printemps. Je vous rappelle que le premier poème connu de lui, c'est un poème en latin, un exercice d'école, et le premier mot de ce poème, c'est « vert », signifie le printemps en latin. Donc le tout premier signe, c'est déjà le printemps. Voilà. Et d'une certaine manière, le dernier signe, c'est-à-dire le moment supposé, qui reste hypothétique, où il a mis au point, plus ou moins, en tout cas, transcrit un certain nombre de poèmes en prose, les illuminations, se seraient probablement déroulées au cours d'un printemps, le dernier printemps, en 74.
Donc le printemps, c'est la saison de sa poésie, selon vous ?
J'ai l'impression, oui. Il faut d'abord, bon, je pense qu'on doit dire que le rythme de sa création poétique, c'est la saison. Quand on envisage l'œuvre dans son histoire de pas mal d'écrivains, en général, on périodise par année, de telle même sur plusieurs années.
C'est parce qu'il n'y a pas eu plusieurs années.
Voilà.
Il y a pas
et
eu
lui,
beaucoup d'années de
un printemps ou une saison en général détermine quelque chose, avec chaque fois peut-être un changement de cap esthétique au moins, ou même politique ou éthique, mais en tout cas un changement au rythme des saisons. Et il est incontestable que le printemps est une saison très privilégiée. Beaucoup de poèmes de lui sont datés mars, avril, donc les mois du printemps, juin. Et je crois qu'il faut aussi comprendre que son idée du printemps, c'est une idée de peut-être une interprétation, mais ça apparaît dans quelques textes. C'est une idée de l'été à venir.
Mais est-ce que l'été arrive jamais avec Rimbaud?
Ah, peut-être qu'il est déçu par l'été, justement, oui.
Il fait trop chaud à Harare aussi, sous la canicule. On n'est pas si bien qu'on croyait.
Oui, vous passez déjà.
Non, je ne passe nulle part.
Mais... ça, oui.
Le poète du printemps, c'est aussi le poète de la sensualité, non?
Oui, je dirais d'abord, c'est, vous le disiez tout à l'heure, le poète de l'évasion. C'est-à-dire, au moment où il commence à faire beau, on a envie de partir. Donc de quitter la famille, de quitter l'école. On faisait allusion tout à l'heure à Ver Erat, c'était le printemps, son premier poème connu en vers latin. C'est l'histoire d'une fugue. Il s'en va, il quitte l'école, et il laisse ses camarades et le maître disserter à l'intérieur de la classe, et lui fait l'école buissonnière.
Oui, voilà. Mais précisément parce qu'il y a un sensualisme de l'espace chez Rimbaud.
Bien sûr, oui, c'est incontestable. Je crois même que c'est présent dans toute son œuvre, du début jusqu'à la fin. Et jusqu'aux illuminations, avec des poèmes comme « Aube », comme « Après le déluge », il y a quelque chose de profondément sensuel, en effet, dans son idée de la liberté.
Cher maître, nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit. Et voici que je me suis mis enfin touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes. Moi, j'appelle cela du printemps. Que si je vous envoie quelques-uns de ces vers, et cela en passant par Alphonse Lemaire, le bon éditeur, c'est que j'aime tous les poètes, tous les bons parnassiens, puisque le poète est un parnassien, épris de la beauté idéale. C'est que j'aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi. C'est bête, n'est-ce pas? Mais enfin. Dans 2 ans, dans 1 an peut-être, je serai à Paris. Anch'io, messieurs du journal, je serai parnassien. Je ne sais ce que j'ai là qui veut monter. Je jure, cher maître, d'adorer toujours les deux déesses, muse et liberté. Ne faites pas trop la moue en lisant ces vers. Vous me rendriez fou de joie et d'espérance si vous vouliez, cher maître, faire faire à la pièce Credo in unam une petite place entre les Parnassiens. Je viendrais à la dernière série du Parnasse. Cela ferait le Credo des poètes. Ambition ! Oh ! Folle ! Arthur Rimbaud.
Bien la lettre d'un début d'un printemps, André Guyot, que cette lettre de Rimbaud au poète Théodore de Banville, lui ici par Arnaud Bédoué. Qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Ce qu'elle inspirait à Rimbaud, j'essaie de me mettre un peu à sa place, c'est-à-dire que oui, c'est le printemps comme il le dit, mais là, il y a une petite fonction de prétexte, c'est-à-dire il veut prendre contact avec le milieu littéraire parisien. Oui, il y croyait à l'époque, hein, comme on le disait tout à l'heure. Il voudrait être publié dans cette fameuse revue qu'on appelait le Parnasse contemporain. Et il écrit à celui qu'il considère comme le maître, le chef d'école, pour avoir une place dans le Parnasse contemporain. Voilà. Et il lui dit des choses très sensibles, très adolescentes, où tout se mêle, hein, liberté, sensualité, évasion, printemps, etc. C'est important aussi que c'est une lettre d'Arthur du 24 avril, si je me souviens bien, du
exactement.
Printemps 70. Et les autres lettres, un an plus tard, sont datées de mai 71. Ces fameuses lettres dites du voyant, adressées à des amis qui ne sont pas du tout auprès de lui. Il leur écrit en les appelant ou en voulant se faire appeler par eux pour s'évader. La lettre est un moyen d'évasion. Hein. C'est l'hypothèse d'un départ, une lettre, d'un voyage.
Alors c'est un voyage qui a aussi une résonance avec le temps, avec l'époque.
Oui.
Donc pas seulement la saison, mais aussi les événements historiques autour de lui.
Oui. Mais au printemps, en mars 70, on peut pas dire que les choses soient très déterminées politiquement. Il n'y a pas de grands événements à ce moment-là. Il y a la guerre qui pointe, et puis après la guerre, il y aura surtout la guerre civile
en 71,
de Paris, en 71,
au moment de la lettre du voyant.
C'est ça, voilà. Oui, en 71, il est à Charleville, encore plus malheureux qu'avant de ne pas être à Paris, puisqu'il sait que quelque chose se passe à Paris. Et c'est le sens à la fois implicite dans les poèmes et très explicite aussi. Il voudrait être à Paris juste à ce moment-là. Il écrit à des correspondants qui ne sont pas à Paris d'ailleurs, qui sont à Douai, Paul Debny et Georges Isambard, et il évoque les événements parisiens.
Alors, on parlera jeudi en particulier de la politique les textes de Rimbaud, mais on peut en dire aussi quelques mots avec vous, André Guyot, et notamment sur les premiers poèmes où on trouve aussi de la politique, mais alors, c'est pas forcément la même couleur que les textes dont on parlera jeudi, notamment Jugurtha.
Oui.
Dites-nous un peu ce que c'est que ce texte-là.
Oui, on peut le considérer comme un texte assez complaisant à l'égard du Second Empire. Un texte, c'est un exercice scolaire, il faut le rappeler. Et l'image de la figure de Jugurtha évoque Abdelkader. C'est une autre figure politique plus contemporaine. Et le geste indirectement que Napoléon III a fait à l'égard d'Abdelkader en l'accueillant, voilà. Et donc, l'exercice se prêtait bien à une sorte de pas de ralliement, parce que c'est puis il est trop jeune pour penser vraiment une option politique qui serait vécue, je veux dire. Mais enfin bon, l'idée est quand même de complaire au régime. Mais il va changer, hein. Il va pas garder cette idée très longtemps.
Non, il sera bientôt communard, comme on le verra. Mais il y a quand même aussi quelque chose chez Rimbaud dans son rapport à la politique qui est très rapidement un rejet de ce qui est équilibré, de ce qui lui semble trop juste, de ce qui lui semble finalement trop modéré. Et il prend l'exemple de Victor Hugo, qui pourtant n'était pas toujours très modéré, mais enfin déjà trop modéré pour lui.
Oui. Oui, j'irais même au-delà de ce que vous dites. Je dirais qu'il y a une violence chez Rimbaud. Elle est très apparente, hein, et elle est explicite dans certains poèmes. faisait allusion tout à l'heure à « Chant de guerre parisien », qui est un des poèmes contenus dans la lettre à Paul Demny, là, du 15 mai 1871. C'est un poème qui est un appel à la guerre. Et puis il y a plus tard, après le déluge, l'idée d'après le déluge, c'est « Ramenons le déluge », c'est-à-dire une forme d'agitation, de révolution. Et il y a un autre poème, probablement antérieur aux Illuminations, « Qu'est-ce pour nous mon cœur ?» qui dit « Mais vous êtes trop sage. » Je l'interprète peut-être en simplifiant, hein, mais « Vous êtes trop sage. Moi, je voudrais l'apocalypse, je voudrais la révolution générale qui embrase la terre entière. »
C'est pour ça aussi qu'il est si spécial, Rimbaud, et que beaucoup de personnes, de génération en génération, le repassent comme un totem.
Oui, c'est-à-dire que l'une des identifications fortes avec lui, c'est il y a l'adolescence, certainement la précocité qui fascine, bien sûr, et il y a aussi la révolte. Oui. On a l'idée, elle n'est pas complète, cette idée, parce qu'il n'y a pas que ça chez lui. Hein, je pense qu'il y a même une forme aussi, même paradoxale, de sagesse, de modération.
Que vous trouvez dans quel poème, par exemple?
Mais on la trouve d'abord dans la forme des poèmes. La forme des poèmes, c'est quelqu'un qui a écrit des sonnets, qui a compté les syllabes des alexandrins, donc qui n'est pas, même s'il y a quelque chose de précurseur en lui, il n'est pas tout à fait celui qui veut tout détruire d'une tradition poétique.
Qu'est-ce qu'il garde alors? L'équilibre? Un certain équilibre, mais seulement en poésie?
Un certain équilibre. Mais il est incontestable aussi qu'il est, je crois, authentiquement, à partir de son adolescence, une figure de révolté.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est un grand chamboulement dans la poésie, l'arrivée de Rimbaud dans le monde des lettres? Je ne parle pas des histoires dont on a parlé hier, je parle vraiment d'un point de vue purement stylistique, littéraire.
Oui, j'en suis pas si sûr. Il y a des éléments déstabilisateurs, mais il n'y a pas de dérégulation chez Rimbaud. Hein, c'est quelqu'un qui finit ses phrases après avoir commencé, qui ponctue, qui a un souci formel presque traditionnaliste et qui en même temps introduit des éléments qui sont des promesses de futures dévastations.
Comme par exemple?
Mais je crois que dans toute sa production du printemps et de l'été 1872, il joue avec les rimes pour qu'elles soient plus tout à fait des rimes, et un certain nombre de poèmes sont composés avec le compte exact des syllabes, puis il y en a un qui ne l'est plus. Il y a du mettre impair, alors que c'est pas quand même tout à fait la tradition, du moins prépondérante. Mais c'est, en même temps, ce n'est pas, vous devinez à quoi je veux en venir, c'est pas le vers libre.
Oui.
Le vers libre,
mais à l'époque,
c'est autre chose,
est-ce qu'il y a des...
qui viendra plus tard, et peut-être qu'on peut dire qu'il y prépare, mais lui ne fait pas ça.
Est-ce qu'à l'époque, il y a des poètes qui vont beaucoup plus loin et plus loin sur le chemin du vers libre?
Ils viendront plus tard. Il a ouvert la voie, oui, c'est sûr. Ils viendront une dizaine d'années plus tard, en fait. Hein. Les vers libristes, c'est 84, 85, 86, surtout 86. Donc c'est plus tard.
Et dans ce rapport à la modernité, vous diriez que Verlaine en est au même point à peu près?
Oui, je pense qu'ils ont partie liée, là, très fortement. C'est pas par hasard s'ils se sont bien compris et bien entendus quand ils étaient en train de composer ensemble parallèlement des œuvres qui se rapprochent un peu l'une de l'autre. Hein.
Donc tout cassé, mais pas vraiment, quoi.
Oui, même pas tout cassé, je dirais pas ça, oui. Dérangé, déstabiliser un peu, introduire des éléments de perversion du système, mais sans faire exploser les traditions et les formes. C'est curieux, mais c'est comme ça. Hein, c'est, voilà. Il y a du classicisme chez Rimbaud.
Et puis peut-être déréguler tous les sens.
Oui, voilà.
Je est un autre. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet, la symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu. Le poète est voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur. Cette langue sera de la pensée, accrochant la pensée et tirant. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec cette lettre du voyant dont on vient d'écouter un extrait, André Guyot, on a une espèce de profession de foi,
oui,
de Rimbaud.
Oui, oui. Oui, c'est une longue lettre magnifique, mais justement, hein, retrouvons l'idée que je développais tout à l'heure. Elle a aussi quelque chose qui reste la tradition poétique de son temps et qui la reflète. Et elle est très romantique. L'idée que le poète est un voyant. Bon, les érudits l'ont repéré un petit peu partout, antérieurement à Rimbaud, qu'il est Prométhée, qu'il est donc, c'est une lettre qui est à la fois une profession de foi très personnelle, très audacieuse, peut-être présomptueuse, peut-être excessive, avec cette manière de se projeter en avant, hein. Et en même temps, elle porte une tradition, cette lettre.
Ça veut dire que Rimbaud, c'est aussi, et peut-être surtout un poète du 19e siècle, un héritier des romantiques qui ne veut pas se montrer comme héritier des romantiques, qui cache un petit peu cet aspect-là de lui-même.
En tout cas, il est né et mort au 19e siècle déjà, et puis je crois, oui, qu'il est le reflet de fortes traditions. Qui... D'ailleurs, un des signes du fait qu'il prend en charge ces traditions poétiques qui viennent du romantisme, même peut-être... avant le romantisme, c'est son goût et son talent très particulier, extraordinaire même, pour l'imitation.
Alors ça, c'est important, voilà. Dites-vous, de l'imitation, oui. Pour expliquer Rimbaud, qui, oui, est l'homme de la reprise, l'homme du pastiche.
Voilà, on pourrait même résumer son œuvre en disant qu'il imite, emprunte d'abord, veut rivaliser avec des modèles, faire mieux qu'eux, et puis qu'il se dégage, et qu'une fois qu'il s'est vraiment dégagé, il se dégage de tout, et de la littérature, et de tout modèle, et de toute idée de la littérature, voyez-vous. Je pense ça, c'est-à-dire, incontestablement, d'une saison à l'autre, d'une étape à l'autre, il se dégage d'influences acquises, il est lui-même véritablement, et d'ailleurs c'est ce qu'il y a de plus beau probablement dans sa poésie, qu'en 72 en vers, et puis avec cette sorte d'autobiographie en 73, une saison en enfer, et puis avec les illuminations, où là, il y a peut-être encore des points sensibles d'une tradition ou de référence, je dirais plutôt, mais il est Rimbaud.
Bah, dans les illuminations, voilà. Il y a quand même une lecture de Baudelaire, et ne serait-ce que dans le fait qu'il ait choisi la poésie en prose, c'est peut-être aussi parce qu'il a bien lu son illustre prédécesseur.
Si vous voulez, oui, on peut dire ça. D'ailleurs, c'est ce que des témoins ont raconté, hein, de la édic, c'est en ouvrant les poèmes en prose de Baudelaire, qu'il a voulu faire comme lui. Et en même temps, il ne me semble pas qu'il y ait de véritables fonction du modèle baudelairien à l'intérieur des Illuminations. C'est autre chose, les Illuminations. C'est autre chose que le Spleen de Paris.
Vous le définiriez?
D'abord, c'est beaucoup plus divers que le... Je veux pas avoir l'air de mépriser Baudelaire. Il y a rien de plus beau que le Spleen de Paris. On voit bien quand même une certaine cohérence à l'intérieur du Spleen de Paris, ne serait-ce que Paris. Et puis, l'idée du récit, l'idée de faire signifier le récit dans les poèmes en prose de Baudelaire. On n'a pas du tout ça, chez Rimbaud. On a une déstabilisation de tout ça, si ça existe. Non, il y a un peu de récit, il y a d'autres choses, il y a un petit peu de dialogue ou de faux dialogue, il y a de l'éveil, il y a du rêve, et en tout cas un éventail de modèles. Mm. Il est bien possible que l'impulsion ait été baudelairienne à l'origine, mais elle n'est pas tenue comme telle.
On ne sait pas s'il y a du spleen, mais en tout cas il y a de l'ennui.
Oui.
Dans Dimanche, par exemple.
Et ça, l'ennui, il est quelque chose qu'il partage avec beaucoup d'autres poètes. Hein.
C'est un peu romantique d'ailleurs, l'ennui, justement.
Oui, c'est très romantique. Oui, oui.
Il y a de l'ennui, il y a de l'utopie.
Oui. Oui, mais une utopie qui n'est pas très distincte. C'est-à-dire, si vous voyez, on parlait tout à l'heure de « Après le déluge », n'est-ce pas ce poème que, semble-t-il, il a voulu mettre en tête du recueil incomplet alors des Illuminations. On peut dire qu'il y a l'utopie de la Révolution dans « Après le déluge », et puis il y a un autre poème comme « Démocratie » qui semble politique également, mais d'où se dégage une autre idée, très très floue d'ailleurs, très, très difficile à exprimer rationnellement, d'une utopie. Une utopie plus sanglante, plus cynique, à laquelle il a l'air d'adhérer, tout en mettant des guillemets d'un bout à l'autre de son texte, comme s'il donnait la parole à quelqu'un. Hein, voilà, encore un des points ambigus d'un texte de Rimbaud.
Ce titre des Illuminations,
oui.
Alors d'abord, est-ce que vous pensez que c'est lui qui l'a choisi?
Oui, je le pense. Oui. Oui.
Et qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi le choix de ce titre, selon vous, André Guyot?
D'abord, c'est un beau mot. Hein.
C'est le printemps aussi, l'illumination, justement.
Oui, mais c'est, voilà. Et puis c'est un mot double. Je crois qu'il aime les mots doubles. Pourquoi est-ce qu'il est double? Parce qu'il a un sens anglais. Hein, et Verlaine a rappelé qu'on pouvait, ou qu'on devait même, dit Verlaine, lui donner son sens anglais, qui signifie plus ou moins enluminure, illustration, planche peinte, voilà, gravure même si l'on veut. Et puis, on ne peut pas s'empêcher quand même de retenir le sens normalisé en français, c'est-à-dire de quelque chose qui dégage la lumière. Voilà. Et donc, je crois qu'il aime les mots à double sens, et que c'est pour ça qu'il l'a choisi. Maintenant, il est vrai qu'il n'y a pas... de déclaration de Rimbaud disant « je choisis ce titre ». Mais c'est par Verlaine que les choses nous sont venues, mais il n'y a pas de raison non plus de douter du témoignage de Verlaine, en l'occurrence.
Mais cette illumination, et encore une fois, c'est un peu subjectif ce que je vous demande là, c'est d'abord la lumière, au sens matériel, au sens physique, au sens sensuel dont on parlait tout à l'heure, ou c'est une illumination qui est aussi de l'ordre de la pensée. Autrement dit, est-ce que Verlaine est aussi un intellectuel ou est-ce que c'est un pur sensuel?
Rimbaud, vous voulez dire?
Pardon, Rimbaud, évidemment.
Verlaine aussi, hein.
Verlaine, si on peut parler de Verlaine.
L'associer, vous n'auriez pas tort, oui, oui. Ben, il y a les deux, bien entendu, oui, oui, il y a les deux. Et il y a, si vous voulez, ce que je veux essayer de dire, c'est il y a la tradition picturale dans le mot illumination. Hein. Et depuis le début du poème en prose, depuis Gaspard de la Nuit, donc en plein romantisme, il y a l'idée d'une analogie avec le graphisme, avec la gravure, à la manière de Rembrandt et de Callot, hein, disait Aloysius Bertrand. Donc il y a toujours cette idée-là du pictural, de quelque chose qui est représenté. Il y a des poèmes des Illuminations comme Les Ponts, par exemple, ou Ornières, ou quelque chose, qui sont comme des scènes animées, bien sûr, mais qui sont comme des tableaux animés. Donc il y a ça. Et puis, il y a la lumière. Et à partir de la lumière, il y a la métaphore de la lumière telle que vous la suggériez tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qu'on a dans la tête, qui est un peu génial. Et cette idée-là aussi, elle existe dans une tradition littéraire. Hein. Les fusées de Baudelaire, c'était un peu... c'est pas tout à fait ça formellement, c'est pas la même chose, c'est pas des poèmes en prose, mais l'idée est assez proche, je crois, de ce qu'il y a dans le mot illumination quand il veut donner ce titre à un recueil de poèmes en prose.
Oui, parce que c'est quand même aussi un jeune garçon extrêmement intelligent, oui. Au sens où il voit, oui. il comprend.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même son malheur, je dirais. C'est-à-dire, il comprend trop bien les choses et donc a une tendance à refuser ce que les autres en disent ou en pensent. Mm. Oui, c'est son intelligence exceptionnelle, sa précocité, si vous voulez dire, est une manière de l'isoler, hein, une manière de le marginaliser.
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre, E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I pourpre sans cracher, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, O, l'oméga rayon violet de ses yeux.
Le poème Voyelle, lu par Guillaume Gallienne, un poème qui ressemble un peu à un jeu d'enfant,
oui,
une espèce de comptine que pourrait se raconter.
Ce n'est pas seulement ça. Pas seulement ça. Il y a beaucoup de jeu dans ce poème, c'est de virtuosité, je crois qu'il y a de l'ironie même. Hein, Verlaine a dit qu'il s'en foutait que Rimbaud, avec son goût de témoigner, il a dit que Rimbaud n'attribuait pas d'importance à ce poème, à ce jeu. En tout cas, lui, Verlaine ne l'aimait pas trop. Il y a ça, si vous voulez, et peut-être un souvenir de l'école, et peut-être un exercice. On a dit qu'il y avait des alphabets colorés là-bas derrière, pourquoi pas, hein, l'idée peut revenir, en effet. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire il y a les correspondances de Baudelaire, il y a l'idée qu'on peut considérer comme extrêmement fantaisiste ou extraordinairement profonde, que le son des voyelles a une couleur, qu'il y a une correspondance entre ce que l'on entend et ce que l'on voit, hein, par le son et par la couleur. Et ça, c'est quand même une originalité ou un type d'audace intellectuelle qui va au-delà du jeu.
Mais qui est le propre aussi du poète.
Oui, bien sûr. Oui, oui. De tous les poètes, vous voulez dire.
Bah oui, tous les poètes. Oui, oui, oui. Parce que c'est justement le jeu quand même sur les assonances qui, et les sons qui font naître des images.
Oui, mais ce qui est aussi le propre du poète, c'est de faire revenir à lui l'enfance. Et là, il y a de l'enfance, puisque l'alphabet, c'est la première chose que l'enfant apprend à l'école. Donc il y a l'enfance et l'enfance apprise, l'enfance un peu scolaire. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et les images qu'on a très bien lues là tout à l'heure dans ce poème témoignent, hein, du fait qu'il y a une extraordinaire inspiration à partir de là.
Donc voilà une nouvelle thématique de la poésie de Rimbaud. C'est le poète de l'enfance, le poète de l'adolescence. Je n'ose pas dire qu'après l'adolescence, il n'y aura plus de poésie, parce que vous ne voulez pas qu'on revienne sur ce poncif de la fin de l'écriture pour Rimbaud.
Avec le risque d'un autre lieu commun, qui est le poème de l'enfance, effectivement. Et il l'est, incontestablement, n'est-ce pas? Un des derniers poèmes qu'il ait écrit s'intitule, non, dans les Illuminations, en prose, s'intitule « Enfance ». Baudelaire disait que le génie poétique, c'est l'enfance retrouvée. Et on évoquait tout à l'heure son premier poème, là on y revient en latin, Vers Erat. Il a 14 ans et demi quand il le compose à l'école en novembre 60, que j'ai noté la date exacte, oui, il a 14 ans, 68, il a 14 ans et demi. Donc il est en train d'abandonner l'enfance, pratiquement, et veut l'abandonner, hein, d'une certaine manière.
L'enfance, c'est aussi le rapport aux parents, je le disais dans mon introduction, le père de Rimbaud, comme on le sait, était très absent. Mais lui, il va toujours chercher un autre père, frère, de substitution. Il y en aura plusieurs. Vous expliquez bien dans votre préface aux œuvres complètes de Rimbaud dans la Pléiade d'André Guyot que le besoin de l'autre est une constante dans même la carrière littéraire, si on peut dire, de Rimbaud.
Oui, il a systématiquement fait appel à des aînés desquels il attendait de l'aide, une sorte de protection, des conseils. C'est l'histoire éternelle de l'adolescent guidé par qui cherche son mentor.
Alors, il y a
pour reprendre le nom du Télémaque, voilà. Et la manière dont il s'adresse à Banville, puis à Isambard, son professeur à Charleville, puis à Paul Demny, puis à Verlaine. C'est une manière de s'adresser, je ne dirais pas père, est un mot très très fort, hein, qui m'inspire un petit peu de résistance, je dirais. Et c'est une idée peut-être trop facile de penser que, n'ayant pas eu de père ou pas de père très présent, il en a cherché un autre.
Oui, c'est une idée trop facile, voilà, mais on ne peut pas la balayer quand même d'un
non, bien entendu, mais si vous voulez, je pense qu'il a surtout cherché des frères aînés, moi je préfère.
Oui, des frères aînés. Voilà, ouais. Et ces frères aînés, ben, il se trouve que c'était quand même des littérateurs, oui. La plupart d'entre eux, et ça n'est pas du coup sans conséquence sur l'œuvre elle-même. Oui. Est-ce que ces gens-là, bon, on pense à Verlaine évidemment, mais on pourrait aussi penser pourquoi pas à Demny, pourquoi pas même à Germain Nouveau, avec qui il était quand il a écrit Les Illuminations. Oui. Est-ce que ces gens-là ont mis leur main, leur plume dans ce qui nous est parvenu de la poésie de Baudelaire, de la poésie de Rimbaud.
Ils vont prolonger l'idée qu'on développait là, c'est-à-dire en cherchant leur aide. Il a, mais avec moins de détermination, avec moins de volonté apparente, obtenu plus que leur aide, c'est-à-dire, on peut dire que d'une certaine manière, heureusement qu'ils ont été là pour sauvegarder une partie de son œuvre qui, sinon, aurait disparu. Hein, donc, Verlaine et puis Germain Nouveau, peut-être d'autres, on n'en sait trop rien, ont été d'une certaine... Et ceux à qui il a adressé des lettres avec des poèmes dans les lettres ont été des archivistes, des conservateurs de l'œuvre.
Est-ce qu'ils n'ont pas été plus que ça? Est-ce qu'ils ne sont pas intervenus dans les textes? En recopiant, par exemple, il y a peut-être un mot ou un autre qui peut, le cas échéant, changer. C'était quand même des poètes. Et puis Verlaine, en particulier, avait sans doute donné des conseils.
Oui, mais de là à dire que c'est Verlaine qui a composé
non, pas du tout.
Le bateau
pas
ivre.
De dire ça, mais...
Non, voilà, c'est ça. Donc, restons prudents. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont eu un rôle. Et ce rôle, à la marge, a pu, faire varier le texte. Hein, par exemple, c'est un exemple qu'on peut donner qui est facile à comprendre. Il y a deux versions du sonnet qu'on a lu tout à l'heure, là, du sonnet des voyelles, qui s'intitule Voyelles, une version autographe de Rimbaud, une version qui est une copie de Verlaine. Et il y a des petites différences entre les deux. C'est évidemment le texte dans l'autographe de Rimbaud qu'il faut préférer quand on édite, mais même quand on analyse ou quand on lit. Mais elles sont significatives, ces petites différences, mais je dirais qu'elles sont significatives, non pas d'une réécriture, il ne faut pas aller si loin, mais de petits éléments qui n'adhèrent pas tout à fait à ce que Rimbaud a écrit ou voulu. Des petits éléments qui sont comme des petites dissidences de lecture.
Qui enrichissent plutôt, selon vous ?
Non, je ne crois pas, on ne dirait pas ça. Oui.
Pitoyable frère. Que d'atroces veillées je lui dus. Je ne me saisissais pas fervemment de cette entreprise. Je m'étais joué de son infirmité. Par ma faute, nous retournerions en exil, en esclavage. Il me supposait un guignon et une innocence très bizarres, et il ajoutait des raisons inquiétantes. Je répondais en ricanant à ce satanique docteur, et finissais par gagner la fenêtre. Je créais par-delà la campagne traversée par des bandes de musique rare, les fantômes du futur luxe nocturne. Après cette distraction vaguement hygiénique, je m'étendais sur une paillasse. Et presque chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, la bouche pourrie, les yeux arrachés, tel qu'il se rêvait. Et me tirait dans la salle en hurlant son songe de chagrin idiot. J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil. Et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route, moi pressé de trouver le lieu et la formule.
Par François-Marie de cet extrait intitulé Le Vagabond tiré des Illuminations. Un mot peut-être avant de reprendre notre conversation sur ce texte en particulier.
Oui, c'est un texte autobiographique qui évoque ses rapports avec Verlaine. Je crois qu'il est transparent, l'identification est inévitable. Et c'est en même temps une sorte de pamphlet, de satire, de celui avec qui il a vécu, vagabondé, vagabond au pluriel, en montrant que, à partir d'un certain moment, il ne partageait plus l'idée, les conditions normales d'une solidarité de deux vagabonds, n'est-ce pas ? Il est un autre type de vagabond, voilà.
« Je est un autre ».
Oui, je ne dirais pas ça. À ce moment-là, quand il dit « je est un autre », il parle de lui, pas de quelqu'un d'autre. Il parle de ce qui sépare le « je » qui crée et le « je » qui vit.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette expression ? On l'a entendue tout à l'heure.
Elle est belle. Hein.
On ne s'est pas arrêté vraiment pour l'expliciter.
On disait presque du mal de la lettre du voyant, mais il y a cette formule extraordinaire « je est un autre » qui consiste à conjuguer le verbe comme si « je » n'était pas « je » mais une troisième personne. Alors que la forme est celle de la première personne, « je ». Donc c'est une extraordinaire invention, ou une extraordinaire audace syntaxique.
Mais qu'est-ce qu'elle signifie ?
Eh bien, ce que je vous disais, c'est-à-dire que il faut séparer celui qui crée dans la subjectivité où il dit « je » et celui qui vit. Et c'est une manière de dire que le poète est un autre. « Je est un autre » pourrait être traduit. Enfin, moi, j'aurais tendance à le traduire comme ça, expliquer comme ça. Le poète est un autre.
Il y a même d'autres qui se revendiquaient d'être Rimbaud,
oui,
et qui ne l'étaient pas du tout. Oui. C'est toute l'histoire des poèmes apocryphes, oui, de Rimbaud, parce que bon, il y a quand même tout un mythe autour de lui, et puis, oui, ça arrive assez tôt. Donc, il y a un certain nombre de textes de Rimbaud qui sont apparus comme ça au fur et à mesure, et qui étaient des autres. Alors, évidemment.
Oui, des autres dans un sens un peu
dans un autre sens
banal. Les pauvres, ils n'ont pas vraiment réussi à rivaliser avec lui. On peut dire que les faux Rimbaud, c'est une sorte d'échec collectif.
Mais il y a quand même André Breton qui a tout de suite vu,
oui,
que, oui, ces poèmes-là...
Que la chasse spirituelle n'était,
voilà,
pas Rimbaud. Oui, oui, oui.
Ouais.
Oui, bien sûr. Mais il n'a pas été tout à fait le seul. Mais enfin, il a eu un ton très particulier de dénonciateur. Et je crois qu'il a bien fait. Hein. Je lui donne tout à fait raison. Il y a parfois des flottements là dans la critique actuelle sur ce sujet. Je suis de ceux qui pensent que c'est un pastiche, un très mauvais pastiche, et que Breton l'a vu tout de suite et l'a dénoncé tout de suite.
Comment a-t-il lu précisément Breton ? Comment a-t-il lu Rimbaud ? Et en quoi est-ce que le surréalisme, c'est aussi une descendance rimbaldienne ?
Oui, ça c'est une autre histoire. Hein. C'est l'histoire des surréalistes et du goût qu'ils avaient de se trouver des antériorités. Il y a d'ailleurs plusieurs moments, notamment deux manifestes de Breton, l'un qui fait une place à Rimbaud, l'autre qui le répudie, et puis un troisième moment où il intervient, en 49, hein, c'est beaucoup plus tard, sur l'authenticité, les questions d'attribution, de pastiche et une supposée malhonnêteté de ceux qui prétendent être Rimbaud alors qu'ils ne le sont pas.
En même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, mais ça n'est pas la même chose.
Oui.
Il y a beaucoup d'emprunts chez Rimbaud des autres. Et c'est un poète qui amasse énormément autour de lui. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que dans la fantaisie qu'il a récolté comme ça autour de lui des textes qui sont des textes un peu de mauvais genre, comme on dirait aujourd'hui,
oui,
il y a quelque chose voilà, de l'ordre de l'invention, pas surréaliste, enfin il ne s'agit pas de tout mélanger, mais enfin, ouais, ou restons sur l'idée du mauvais genre en tous les cas.
En tout cas, les surréalistes ont voulu le voir, mais quel... citez-moi dans la postérité, après Rimbaud, quelqu'un qui ne voudrait pas s'en réclamer. Ça n'existe pratiquement pas. On peut dire qu'il a...
Jean Paulhan disait que c'était quand même pas le plus grand des poètes,
oui,
mais qu'il avait quelque chose
en même temps,
qui nous approchait.
Il disait que ce qu'il était inévitable, qu'on ne pouvait pas s'en débarrasser. Il disait qu'on ne pouvait pas s'en débarrasser.
Oui, mais ça veut dire c'est un peu à double sens, on ne peut pas
s'en
débarrasser.
C'est à double sens, mais en même temps, ça veut dire que la postérité de Rimbaud est très riche. Char, Cocteau, Breton, les surréalistes, Aragon, tout le monde se réclame de Rimbaud. C'est-à-dire qu'il est comme une figure obligée, avec ce que ça suppose d'ambiguïté, parce qu'on voudrait peut-être s'en débarrasser.
Mais s'il est une figure obligée, et là je suis obligé de revenir à quelque chose que vous avez envie d'évacuer, c'est parce qu'il a arrêté d'écrire.
J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de fraises et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au Wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles. Dans l'allée, en agitant les bras. Par la plaine où je l'ai dénoncée au coq. À la Grand-Ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes. Et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi.
Là, je dois dire, André Guyot, que vous êtes très fort parce que vous avez réussi, grâce à la puissance de votre volonté, à troubler l'ordinateur. Et on devait écouter Yves Bonnefoy qui devait nous parler de l'aporie chez Rimbaud. Et c'est autre chose qui est parti. En l'occurrence, ce passage, Aube, recueil des illuminations par Jean-Baptiste Malâtre. Ça vous arrange bien, alors, finalement?
Oui, je préfère ça. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez à en dire de ça?
On est toujours dans le même sujet, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un poème du printemps, peut-être.
En tout cas, c'est un poème du vagabondage.
On dirait, c'est le printemps ou l'été, on dirait que la lumière se lève assez tôt, puisque il la poursuit, c'est l'aube, et à la fin de la nuit. On peut imaginer une saison favorable, en tout cas comme le printemps et l'été. Et c'est toujours cette thématique de la sensualité que vous évoquiez vous-même tout à l'heure. Mais vous souhaitiez qu'on quitte tout ça et qu'on parle de l'abandon de la littérature, ce qu'on peut faire.
On peut le faire un petit peu.
C'est pas interdit.
On peut le faire un petit peu parce que, au fond, si on est là aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il y a eu l'abandon de la littérature. Et sinon, probablement qu'on parlerait de quelqu'un d'autre aujourd'hui, André Guyot.
D'abord, je dois dire, d'autres que moi vous diraient, et non, je ne leur donne pas complètement tort, moi je n'assume pas cette idée, qu'il n'a pas cessé d'écrire. Et que son destin de poète s'est accompli sous d'autres latitudes et d'une autre manière, et qu'il a toujours gardé la plume et le papier devant lui pour écrire des lettres adressées à ses collègues, à sa famille, etc., quand il était en Afrique ou en Asie. Donc on peut aussi avoir cette idée. Moi, je ne l'ai pas. J'ai l'idée d'une rupture.
Mais voilà. Il a peut-être arrêté d'écrire de la poésie ou de la prose poétique, mais est-ce qu'il n'a pas voulu écrire, par exemple, un livre sur le Harar?
Non,
C'est des idées qui reviennent comme ça de temps en temps. Vous n'y croyez pas, ça vous fait rire même.
Je crois qu'un ethnologue, un géographe, un historien de toutes ces régions, peut-être un écrivain, peut à sa manière témoigner, contribuer à la connaissance des choses, mais qu'on n'est plus dans le même univers.
Ouais. Voilà. En tout cas, il s'intéressait peut-être plus à la poésie, mais il lisait quand même beaucoup et il se prenait peut-être, c'est ce que pensait en tout cas Michel Butor, pour un personnage vernien. On l'écoute.
Rimbaud est...
Michel Butor.
Ce que je peux appeler un personnage vernien. C'est-à-dire que il s'efforce de réaliser un idéal qui est celui du sauvage savant. Aussi sauvage que possible et aussi savant que possible. Donc un personnage qui recommence à lui tout seul l'histoire humaine, qui recommence la civilisation. C'est le type de personnage que l'on trouve dans un certain nombre de romans de Jules Verne et parmi ceux de la période qu'il a certainement lu, puisque maintenant, l'influence considérable de la lecture de 20 000 lieues sous les mers est quelque chose de tout à fait établi sur le bateau ivre et sur un certain nombre des textes des Illuminations. Eh bien, une des suites de 20 000 lieues sous les mers, l'île mystérieuse, représente ainsi un personnage d'ingénieur, l'ingénieur Cyrus Smith, et on peut dire que Rimbaud s'efforce de réaliser un ingénieur de ce type. Rimbaud lui-même veut devenir puissant par la science. Mais quelle science ? Eh bien, une espèce de science pratique universelle qui va permettre de régner et de survivre et en quelque sorte de régner dans n'importe quelle circonstance. C'est pourquoi le Harare est une espèce de terrain d'expérience de choix.
Ça vous paraît étrange, j'ai l'impression, cette analyse d'un Rimbaud vernien, personnage vernien par Michel Butor, André Guyot.
Étrange, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne la partage pas.
Mais vous voyez ce qu'il veut dire ou pas ?
Oui, bien sûr, mais je n'y crois pas, si vous voulez. Je crois qu'elle mêle tous les registres, et je crois qu'il a lu Jules Verne, bien entendu, peut-être pas tout Jules Verne, mais en tout cas des choses qui produisent de petits effets, mais tout ce qu'on a pu lire là, et qu'on peut lire... encore de Rimbaud, Aube, les voyelles, la lettre à Banville. Où est-ce que vous voyez Jules Verne?
Ah oui, mais c'est après. C'est quand il commande à sa mère des livres comme Traité complet des chemins de fer, Traité de mécanique à l'école de Chalon.
Je ne crois pas que ce soit le propos qu'a tenu Michel Butor et qu'on vient d'entendre. Michel Butor fait un amalgame de tout et dit qu'il y a quelque chose de Jules Verne dans les Illuminations, et dans un certain nombre de poèmes de Rimbaud et dans le bateau ivre, et incidemment, pour quelques points précis, oui, sans doute, mais le bateau ivre, ce n'est pas Jules Verne, les Illuminations, ce n'est pas Jules Verne. Mmh. Et je ne crois pas non plus que les autres velléités scientifiques, si vous voulez, de connaissance d'une région peu connue à l'époque en Europe, hein, qu'elle a rare, soit de nature, de la même espèce que les romans de Jules Verne. Mmh.
Quel est votre Rimbaud à vous, au fond ? Celui en lequel vous croyez
Il est le premier, il est celui dont nous parlions, il est celui du printemps, de la poésie, de la sensualité, du vers, d'un amalgame de la liberté et de la tradition, et de quelque chose de très fort et de puissamment original, qui est sa poésie.
Et de l'ailleurs aussi,
forcément. Oui, bien sûr, si vous voulez. Mais je crois au divorce, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a...
Divorce, c'est pas le mot qui convient. Très belle citation,
on
va la mettre sur le site.
C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours rompu, bien avant, avec certaines personnes qu'il avait connues, avec certaines formes qu'il avait adoptées. Donc il n'est pas étonnant qu'il y ait eu une rupture un tout petit peu plus définitive que les autres à partir d'un certain moment.
Cette rupture, elle est programmée, elle est déjà dans les textes.
Elle est en tout programmée, oui, je crois qu'elle est... Oui. Elle est même préfigurée, elle est énoncée avant d'être pratiquée dans Une saison en enfer, puisqu'il n'a pas tout à fait fini quand il écrit Une saison en enfer avec la littérature, avec la poésie, mais déjà, il dit, voilà, c'est fini, je veux d'autres horizons, je veux prendre la mer, je veux quitter l'Europe, etc. Il le dit. Hein.
Même si au fur et à mesure, il revient chaque fois déçu. Il n'y a jamais d'ailleurs heureux avec...
Non, non, non. Non, il n'a pas connu le bonheur, probablement. Et on peut dire les choses comme ça. Oui. C'est aussi jamais... à ce Rimbaud-là qu'on peut croire, c'est-à-dire à Rimbaud de l'insatisfaction. C'est-à-dire
un grand thème.
Un grand mot romantique, oui.
Mais écoutez, merci beaucoup André Guyot d'être venu nous parler de tout cela, de l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Aujourd'hui, vous l'avez édité, je le rappelle, dans la bibliothèque de la Pléiade. On peut se procurer toujours, bien entendu, ce volume. On termine cette émission, comme chaque jour, par En compagnie des revues.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique proposée aujourd'hui par vous, Jérôme Dupuis, du magazine L'Express, notre partenaire. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Alors cette semaine, L'Express consacre sa couverture à l'écrivain Sylvain Tesson. Toute la couverture. Pourquoi ce choix ?
C'est notre homme au sommet devant d'aujourd'hui.
Ah, vous croyez ?
Un peu. C'est une voix qui porte, qui compte. Il a tout de même vendu 500 000 exemplaires d'un livre sur la Panthère des Neiges en quelques mois. C'est le livre qui s'est le plus vendu pendant l'année 2019. En 12 ans, il a vendu 2 millions de livres. C'est tout de même colossal. Quand il fait des conférences, on nous a raconté qu'on vend 800 places payantes et qu'on est même obligé d'attribuer les places qui sont derrière les piliers tant les gens veulent venir le voir. Il est vrai que c'est diatribe sur la modernité plaise beaucoup, notamment tout ce qu'il peut dire sur l'iPhone et les écrans, les réseaux sociaux. Désormais, quand il monte sur scène, il termine systématiquement, j'allais dire, son spectacle par un tonitruant « Allez tous vous faire connecter ».
Alors vous allez plus loin à l'Express puisque vous le qualifiez de « icône réactionnaire ».
Oui, mais lui-même le reconnaît d'une certaine manière. Dans l'un de ses aphorismes, il écrit « Je suis tellement réactionnaire que je préfère le début de mes phrases à leur fin ». Pour réaliser ce portrait, avec Camille Vigogne, on a rencontré pas mal de monde, on a relu ses livres, on a retrouvé ses amis d'enfance. Et ce qui ressort vraiment clairement, c'est que Sylvain Tesson est culturellement de droite. Voilà d'ailleurs ce qu'il nous a déclaré. « Si préférer la liberté à l'égalité, l'aventure individuelle aux actions collectives et la nostalgie à l'avenir, c'est être de droite. Alors oui, je suis de droite. C'est d'ailleurs une assez belle définition de la droite. Il a grandi dans un milieu particulier. Son père était un journaliste qui bataillait contre les socialistes. Et sa gouvernante, qui l'a élevée, était une réfugiée hongroise, qui l'a élevée dans la terreur de la faucille et du marteau. Et
d'ailleurs, vous racontez qu'il ne craint pas de s'afficher avec des infréquentables.
Oui, c'est un homme libre. Il a d'ailleurs animé le libre journal de l'aventure sur Radio Courtoisie, autoproclamé radio de toutes les droites. Il n'a pas craint non plus de préfacer en 2015 un recueil de romans de Jean Raspail. Sylvain Tesson préfère voir dans l'auteur du controversé Camp des Saints, un roman prémonitoire sur les migrants, l'aventurier qui partait en canoë à la rencontre des tribus indiennes. Il n'a pas hésité non plus à donner une interview à Alain de Benoît, théoricien de la Nouvelle Droite, interview qui fera la une de la revue Éléments, qui n'est pas vraiment une publication gauchiste. Et l'écrivain qu'il cite le plus fréquemment, c'est Ernst Jünger, qui est quand même passé de la révolution conservatrice allemande des années 20 aux délices de l'entomologie.
Et puis il y a ses positions sur l'islam, est-ce que ça fait de lui un auteur particulièrement clivant ?
Ça pourrait, ça devrait, c'est tout le paradoxe et on pourrait même dire l'intérêt de Sylvain Tesson. Il peut déclarer que l'islam modéré est un oxymore, sans déclencher la moindre polémique. Sans doute est-ce dû à sa légitimité, c'est un voyageur, il a vu sur place. Il nous a raconté qu'il avait été très profondément marqué par ce qu'il avait vu dans l'Afghanistan du Mollah Omar en 2001. Nous racontons aussi qu'il a récemment tenu à dormir avec une milice chrétienne à Mossoul, sur la ligne de front de la guerre contre l'État islamique. Ce côté écrivain baroudeur séduit évidemment, autant que son style, son sens de la formule. Certains ont cru qu'en le désignant comme une icône réac, nous voulions l'attaquer, pas du tout. Au contraire, si nous lui avons consacré cette couverture, c'est parce que nous pensons que sa personnalité d'homme libre, ses écrits brillants, nous sortent du confort un peu politiquement correct, si souvent à l'œuvre de notre littérature. Au contraire, son succès nous dit quelque chose d'important sur la France de aujourd'hui.
Voilà, chacun se fera son avis en découvrant votre dossier à la une donc du magazine L'Express. Merci beaucoup Jérôme Dupuis. La compagnie des œuvres, c'est Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo, Anne-Vanessa Prévost et Ludovic Auger.